avait certains classiques comme thrombocytes, donc ischémiques et hémorragiques. Mais nous, nous allons jusque-là pour expliquer le troisième type. Voilà un peu ce qui est des types d'ABC.
D'accord. Maître Benjamin Kalumba, sa question, comment se manifeste un AVC?
L'AVC se manifeste de plusieurs façons. Ces façons de se manifester sur le plan clinique, comment reconnaître l'AVC? L'AVC doit être évoqué dans les circonstances telles que où on a un déficit neurologique.
Comment se manifeste ce déficit neurologique?
Le déficit neurologique s'accompagne de perte de certaines fonctions. Par exemple, la fonction motrice, un patient qui marchait normalement et soudain, comme je l'ai dit dans la définition, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Et cet accident, c'est comme l'accident, on ne peut pas promettre, ça survient, ça surprend. C'est comme une personne aussi qui doit connaître ses déficits neurologiques, pas perdre de certaines fonctions, par exemple, il perd la motricité, il perd la sensibilité, certains peuvent perdre la vision, l'audition, le langage. Ces éléments sont à prendre en compte chez un patient qui était normalement bien, et tout d'un coup, il commence à perdre le langage, il commence à balbutier, il commence à avoir des bizarreries, où il sent une paralysie, il atteint son membre, comme le commun des mortels le dit, c'est une paralysie, mais c'est nous, maintenant, nous avons spécifié cela. Alors, ça, il s'agit sur le plan déficitaire, neurologique, sur le plan du déficit neurologique. On peut avoir aussi, sur le plan focal, de certaines fonctions qui correspondent directement à la lésion d'une structure anatomique cérébrale donnée. Ça veut dire que cette fois-là, vous verrez que les symptômes surviennent ou arrivent d'une façon très, très brutale. C'est là que j'ai trouvé qu'il y a le plus souvent un déficit neurologique focal qui apparaît sans prodrome ou d'emblée maximal. Vous verrez que ces symptômes peuvent toutefois s'accompagner selon qu'il s'agit d'un AVC hémorragique ou un AVC ischémique. Il faudra préciser que lorsqu'il s'agit d'un AVC tout à fait ischémique, vous trouverez les manifestations et ischémiques hémorragiques, je voulais dire. Ces symptômes peuvent perdurer. Ça veut dire ces troubles de langage, de la motricité, sensibilité, consort, peuvent perdurer. Et nous avons également une autre sorte d'AVC ischémique que je voudrais préciser. Ce type d'AVC, celui que nous appelons comme étant un accident ischémique transitoire, AIT.
Comment peut-on identifier cette sorte d'AVC?
C'est quelqu'un qui a cette paralysie, mais la durée des symptômes ne prennent que quelques heures et puis des symptômes où les signes disparaissent. Alors pour reconnaître l'AVC, l'AVC se traduit, si je peux le résumer, par un déficit neurologique qui s'accompagne de perte des fonctions motrices, des fonctions sensitives, visuelles, auditives, ainsi que sur le plan du langage.
Ok. Salvador Mouami, Herman Germain et Aboubakar Djalabi Bachi s'intéressent aux causes des AVC.
On en a plusieurs. Il y a des causes qui sont communes et que nous pouvons retrouver dans tous les types d'AVC. Et nous avons aussi les causes qui sont spécifiques au type d'AVC donné. Je pense un peu plus rapidement. Il y a plusieurs causes et je ne saurais pas tout dire, c'est vrai, mais je prends les plus importants pour que nos auditeurs comprennent quelles sont les causes plus fréquentes, bien entendu, des AVC, comme cela, c'est un problème de santé.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Je voudrais bien premièrement commencer par l'AVC ischémique, qui est la forme la plus représentée ou la plus courante, et les causes sont multiples. Nous avons premièrement les causes que nous appelons les causes qui sont liées à ce que nous appelons la athérosclérose ou fibrillation atriale. Là, je ne pourrais pas m'y appeler trop parce que les auditeurs peut-être ne seront pas très appréhendés cela, mais j'aurai toutefois à m'appliquer pour qu'ils comprennent. L'infarctus cérébral peut être dû à des problèmes tels que une atteinte de grosses artères. Et là, nous parlons des macro-angiopathies, une atteinte des petites artères, ce que nous appelons des micro-angiopathies. Nous avons aussi des cardiopathies embolisées. Ça veut dire un patient qui souffre d'une cardiopathie avec des emboles, ça veut dire des caillots de sang qui peuvent être circuités dans la circulation. patient dans la grande circulation jusqu'à aller obstruer ou encore boucher un vaisseau cérébral et entraîner une souffrance cérébrale pour conduire à un AVC tout à fait ischémique. Nous avons également fait un état prothrombotique. Là, c'est rapport au facteur de coagulation. Donc, on peut avoir des patients qui ont le trouble de coagulation. D'une manière tout à fait génétique, qui présente des troubles de coagulation, ce genre de patients peuvent faire très facilement les AVC. Les causes métaboliques, ce sont les causes bien entendu qui sont là, et nous aurons à expliquer un peu plus loin. Toujours dans les causes d'AVC chimiques, c'est que nous appelons l'infection des artères cervico-aphétiques. Et la cause la plus fréquente, les infarctus cérébraux des sujets jeunes. Donc, infection des artères au niveau cérébral, et cette infection peut toutefois entraîner des AVC, et malheureusement, ces types-là, cette circonstance peut toutefois conduire à des AVC même chez les sujets qui sont tout à fait jeunes. La dissection, comme je le disais, peut correspondre à un développement d'un hématome dans la paroi de la tête.
Ça veut dire quoi, docteur?
Ça veut dire que le sang qui ne peut pas être extériorisé va se coaguler dans la voie crânienne. Et cette coagulation peut toutefois conduire à un hématome qui comprime du cerveau et aussi conduire par la suite à un AVC qu'on appelle ischémie. Nous avons aussi des causes post-traumatiques. Un trauma crânio-encéphalique, un choc sur par accident ou un trauma crânio-encéphalique, il peut y avoir la rupture d'un vaisseau au niveau cérébral et cette rupture peut toutefois aussi entraîner l'AVC génétique. Nous avons les AVC hémorragiques.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une hypertension peut être aussi à la base d'un accident vasculaire cérébral?
Pour les AVC hémorragiques ou hémorragie intraparachimenteuse, là, nous avons l'hypertension chronique. L'hypertension chronique cause donc 50% des hémorragies intraparachimenteuses. L'hypertension chronique, c'est l'élément important qu'il faudra retenir parmi les causes des AVC hémorragiques. C'est là que nous pouvons parler des capsulothalamiques. Nous avons l'hémorragie capsulolenticulaire, les hémorragies cérébelleuses. En fait, je ne voudrais pas m'attraper dessus parce que ça risquerait de compliquer les auditeurs pour rien. Nous avons, hormis l'hypertension chronique comme cause principale des AVC hémorragiques, nous avons aussi la rupture d'une malformation vasculaire. Cela concerne environ 10% des hémorragies intraparachimenteuses et ça touche au moins un tiers des AVC hémorragiques chez les sujets jeunes, contrairement aux précédentes causes. Alors, nous avons aussi comme cause, ça peut être la troisième cause des hémorragies des AVC hémorragiques. Nous avons une catégorie de patients qui présentent, par exemple, les enfants qui naissent déjà dès le bas âge avec des troubles de coagulation. Ces gens-là sont prédisposés à faire les AVC hémorragiques. Nous avons aussi les tumeurs cérébrales. Ça représente environ 10% des causes des AVC hémorragiques. Nous avons aussi les autres causes. Je vais essayer de les citer en passant. Et c'est là que nous avons les angiopathies amyloïdes, l'hémorragie intraparachimenteuse de l'obénaire, les thrombose veineuse cérébrale, les endocardites infectieuses.
De façon ramassée, docteur, pouvez-vous évoquer ce qui peut constituer les causes des AVC chez les jeunes et ce qui peut être les causes des AVC chez les personnes âgées?
Nous avons chez les jeunes comme cause la dissection des artères cervicales, par exemple. Nous avons des cardiopathies amboïgènes, les cardiopathies, les troubles de coagulation. Nous pouvons avoir des maladies de la paroi artérielle, les anévrismes, les hémorragies cérébro-méningées, les anomalies de l'hémostase, comme je le disais bien avant. Nous pouvons avoir aussi les causes acquises comme les hémopathies, l'alcoolisme, l'AVC de Moyamoya chez les sujets drépanocytaires. Nous avons les endocardites infectieuses, les antivitamines K. Maintenant, chez les sujets âgés, nous avons les artéroscléroses, les hématomes profonds, nous avons l'hypertension artérielle, les angiopathies amyloïdes, les hématomes lobaires, les tumeurs cérébrales, les hémorragies intratumorales et aussi les antivitamines K que nous donnons aux malades. Ça peut aussi conduire à des troubles de coagulation et entraîner les AVC. C'est une manière résumée, Nani, ce sont les causes que nous avons l'AVC.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, docteur, nous avons plusieurs auditeurs qui mettent en cause l'alimentation. Et Joanne Mumbi dit clairement, est-ce que la mauvaise alimentation peut causer l'AVC?
Bien sûr, l'alimentation a une très grande influence dans la survenue des AVC. Je pense qu'il a voulu savoir quels sont les facteurs de risque de cette pathologie. L'alimentation joue un grand rôle dans la survenue des AVC. Ce qui est vrai, l'alimentation peut ne pas causer directement l'AVC, mais ça peut être un facteur favorisant de l'AVC. De façon qui utilise vraiment les aliments trop riches en cholestérol, par exemple, ils seront confrontés à un problème d'hypercholestérolémie, donc excès de cholestérol. Alors que nous savons que si vous utilisez l'aliment gras riche en cholestérol et comme ça, vous êtes prédisposé à faire l'hypertension artérielle. Et c'est par cette hypertension artérielle que vous pouvez avoir des problèmes d'AVC. Et aussi, comme je l'ai souligné bien avant, les consommateurs du tabac, donc la nicotine, c'est une substance qui a de l'influence sur la paroi vasculaire. Il y a bien sûr plusieurs mécanismes et ça peut aussi conduire à des problèmes d'hypertension et entraîner par la suite des problèmes d'AVC. Et il y a la cocaïne, le cannabis, l'héroïne, les opiacés, les amphétamines, les solvants, tout ça. Vous voyez, toute alimentation pouvant aller jusqu'à entraîner ou avoir une influence jusqu'à causer l'hypertension artérielle, tous ces aliments sont des facteurs favorisants d'AVC et ce sont ces aliments qui influent sur cet état de choses. Donc l'alimentation a sa part dans la survenue des AVC, que ce soit hémorragique.
Okay. Alain Moussassa veut se rassurer que l'AVC n'est pas une maladie contagieuse. Qu'avez-vous à lui répondre, docteur?
L'AVC n'est pas contagieuse parce que nous savons que les causes sont identifiées et aussi, en même temps, les mécanismes de survenue de cette pathologie sont connus. Donc, j'insiste et je dis que l'AVC n'est pas contagieuse et jamais il ne le sera. Donc, c'est une maladie neurologique qui résulte de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau ou en général, quand un vaisseau sanguin éclate ou il est bloqué par un caillot, et c'est ce qui peut entraîner la survenue de cette pathologie par toute cette souffrance entraînée par la diminution de l'oxygénation et de l'apport en nutriments au niveau de la zone du cerveau touché. En raison de l'absence de ces deux substrats précités, ça réduit l'oxygène et le glucose, donc il y aura de la réduction du flux artériel cérébral qui est tout à fait responsable d'une souffrance du parenchyme cérébral et donc des mauvais fonctionnements dans les territoires de l'artère occlusale. Donc ce sont ces éléments qui peuvent favoriser la survenue de l'AVC. Et de là, il n'y a pas moyen que ce soit une maladie contagieuse. Donc l'AVC, j'insiste et je dis à notre auditeur que c'est une pathologie neurologique qui est connue sur le plan physiopathologique, le mécanisme de survenue, les étiologies, aucun élément n'expliquerait que l'AVC est contagieux.
D'accord. Espoir Koutoumaïni vous demande de lui parler des signes annonciateurs des accidents vasculaires cérébraux.
Les signes annonciateurs, c'est que nous avons premièrement le déficit moteur, comme je l'ai dit, un problème moteur, c'est-à-dire un patient qui a une paralysie. Je voudrais signaler quelque chose. Très souvent, l'AVC, ça surprend, comme je l'ai dit dans la définition, que c'était un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire. Et c'est comme ça que nous l'appelons même accident. Et très souvent, les signes annonciateurs ne sont pas identifiés, mais ils arrivent. Donc, c'est quelque chose qui surprend. Mais seulement, il faudra se baser sur les facteurs qui favorisent cet état de choses. Je l'ai souligné, un patient diabétique, ces patients sont prédisposés. Le patient qui a eu à avoir déjà l'AVC, les états chimiques transitoires, il a connu les déficits neurologiques qui se sont produits dans un contexte trop bref. Ça veut dire le délai de 24 heures, par exemple, avec disparition de toute la sécurité qu'il a eu à connaître, un problème de langage, un déficit ayant trait à la sensibilité, des céphalées, des vertiges et tout ça. sont les signes qui annoncent que le patient a une prédisposition à faire à la longue ce que nous appelons l'accident vasculaire cérébral. Voilà un peu ce qui est des signes annonciateurs. Donc, il faudra voir quels sont les signes qui accompagnent votre hypertension pour le patient hypertendu. Ils ont des céphalées, des vertiges et tout ça. Donc, ça peut annoncer l'AVC.
Alors, docteur, en dehors de ces personnes, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont des personnes à risque de développer les AVC?
D'abord, il faudra dire que tout le monde est concerné par cette pathologie. Vous avez vu que j'ai présenté, il y avait aussi les causes post-traumatiques. Toutes les lésions qui touchent les cerveaux peuvent entraîner ou conduire à l'AVC. Donc, les personnes à risque, ce sont ces personnes qui sont des consommateurs habituels ou fidèles, qui sont ce que je venais de citer. Donc, ayant une addiction, par exemple, à l'alcool, la prise de substances ou d'aliments contenant beaucoup de cholestérol, les patients qui sont diabétiques. En soi, c'est une pathologie qui touche tout le monde, mais beaucoup plus les personnes à risque, ce sont les personnes âgées. Vous voyez, les personnes qui ont un âge très avancé, à partir de 55, 50, 55 ans, ils peuvent très facilement développer la vie. Dans l'ensemble, c'est une pathologie qui concerne tout le monde, que ce soit les sujets jeunes tout comme les sujets âgés.
Jean-Paul Mpoy, Romain Ngoy, Maître Benjamin Kalumba et Michael Niembo veulent des indications sur ce qu'il faut faire s'ils remarquent des signes annonciateurs d'un AVC chez un patient. Quelle est la conduite à suivre?
Par rapport aux signes annonciateurs, on a juste le prodrome, les signes qui annoncent, et cela, ça peut ou ne pas être l'AVC. Le patient ou l'entourage voit ces éléments avec un déficit neurologique qui est brutal, qui est soudain, qui arrive, un patient qui parlait, qui ne parle plus, un patient qui marchait, qui ne marche plus, un patient qui pensait vous le toucher, ça ne sent plus. Amener le malade à l'hôpital directement sans plus tarder.
Michael Niembo et Maître Benjamin Kalumba insistent sur le cas où il n'y a pas un hôpital dans les environs. Que doivent-ils faire? Est-ce qu'il y a des premiers soins qu'on peut... Que doivent-ils faire?
C'est une pathologie qui doit être traitée par des personnes spécialisées. C'est à l'hôpital que nous savons quoi faire. Le premier objectif est de confirmer ou infirmer le diagnostic d'un AVC, pas l'imagerie cérébrale. Voilà pourquoi il est trop capital d'envoyer directement, dès qu'ils ont dit ces signes de déficit moteur, amener le patient à l'hôpital. Dans un centre de santé, il n'y a pas de soins à donner à la maison en cas d'AVC. La confirmation, ce n'est pas l'imagerie. Quand vous voyez un patient qui a perdu sa motricité, sa vision, l'audition, le langage, dans la zone cérébrale atteinte, donc la direction fait que c'est amener le patient directement dans une unité de santé, même si l'unité n'est pas spécialisée dans un premier temps. Il faudra conduire le patient à l'hôpital, à l'hôpital d'un centre de santé. Et là, en fait, tout le personnel, qui peut même sur le plan de son clinique, mettre en évidence, penser à l'AVC et conduire ou encore envoyer directement le patient dans un hôpital spécialisé.
Le conseil est clair. J'espère que Michael Niembo et Maître Benjamin Kalumba l'ont bien entendu. Il faut emmener le patient à l'hôpital. Il n'y a pas de soins à donner à la maison. C'est aussi sur ce conseil que nous mettons un terme à notre entretien. Merci, Dr. Prince Kazadi, d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Merci beaucoup, Nanit. Merci à moi de vous remercier pour cette opportunité. Merci à tous nos auditeurs.
C'était l'entretien que nous a accordé le docteur Prince Kazadi, neurologue à l'hôpital du Saint-Contenaire et à la clinique Man Caché à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est l'heure de carnet de santé avec Victor Kondo.
Cette semaine, dans carnet de santé, un regard sur la drépanocytose, la plus répandue des maladies rares selon les experts. Et un patient drépanocytaire partage son expérience avec la maladie depuis le Rwanda. Ensuite, les autorités sanitaires ougandaises redoublent d'efforts pour contenir une épidémie d'Ebola dans le pays. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est une maladie qui peut priver les tout-petits de leur enfance. La drépanocytose, également appelée anémie falciforme, est une maladie héréditaire du sang qui fait qu'un globule rouge normal, qui a une forme circulaire, devient rigide, collant et se replie comme une faucille ou en forme de croissant. Ces cellules réduisent la circulation du sang, créant de la douleur et des problèmes de santé potentiellement mortels. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. La condition est plus fréquente dans certains groupes ethniques, y compris les personnes d'origine africaine, indienne et méditerranéenne. Les deux parents doivent être porteurs du gène ou l'un des parents doit avoir la maladie. Selon les experts, les parents qui portent tous les deux le gène de la drépanocytose ont 25% de chances d'avoir un enfant drépanocytaire. Environ 300 000 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose, selon l'Organisation mondiale de la santé. Beaucoup d'entre eux meurent avant leur 5e anniversaire. Mais les observateurs disent qu'il y a de l'espoir avec une intervention précoce et l'accès à des soins appropriés.
La drépanocytose amène le corps à produire des globules rouges en forme de fossiles ou de disques, ce qui rend difficile pour les patients de transporter l'oxygène des poumons. Le docteur Prébo Barango est médecin au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.
La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en Afrique. À l'échelle mondiale, nous avons environ 120 millions de personnes atteintes de drépanocytose et 60% d'entre elles se trouvent en Afrique.
Selon une étude publiée dans The Lancet Global Health, l'Ouganda est confronté à un lourd fardeau de drépanocytose depuis plus de 70 ans et a été l'un des premiers pays à le signaler en tant que tel en 1949.
In Uganda, about 20,000 to 25,000 children.
En Ouganda, 20 à 25 000 enfants naissent avec la drépanocytose chaque année et parmi eux, entre 50 et 80% ne verront pas leur 5e anniversaire.
Les experts médicaux affirment qu'un diagnostic précoce est essentiel pour aider à réduire l'impact à long terme de la drépanocytose sur les patients.
Bien que cela ait été fait, il reste encore d'autres défis. Par exemple, il y a un manque de kits de tests dans certaines régions.
Il existe des options de traitement une fois qu'un enfant est diagnostiqué avec la drépanocytose, mais les experts notent que l'obtention des bons soins peut être coûteuse et n'est pas toujours accessible dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne, en particulier dans les zones rurales.
Décentraliser les soins au niveau le plus bas, c'est-à-dire les soins de santé primaire, afin que les populations des zones rurales puissent avoir accès à ces diagnostics précoces de la drépanocytose une fois diagnostiqués, ils suivent un certain parcours de soins. L'autre chose est de s'assurer que des médicaments comme l'hydroxyurée, dont il a été démontré qu'ils réduisent la fréquence des crises de drépanocytose dans des pays développés, sont difficiles d'accès dans la région. Il est donc important que l'hydroxyurée soit plus disponible.
Les recherches montrent que les personnes atteintes d'anémie falciforme sont plus sujettes aux infections. L'un des problèmes majeurs pour un enfant atteint de drépanocytose est la survenue d'accidents vasculaires cérébraux en raison du blocage du flux sanguin vers le cerveau, ce qui est le plus crucial à l'âge de 5 ans. Les experts médicaux disent que l'incidence dangereuse peut être prévenue par la transfusion sanguine.
Que savez-vous de la drépanocytose? Connaissez-vous une personne qui en est atteinte? Voici quelques réactions de Lomé au Togo.
Bon, moi j'ai ma grand-sœur qui souffre de la drépanocytose. Bon, souvent quand elle fait ses crises, personnellement je ne sais pas quoi faire pour la parce qu'elle a des douleurs. Et bon, je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire pour apaiser ça, mais souvent on va à l'hôpital.
J'ai commencé à manifester les symptômes, la maladie depuis mon jeune âge, depuis 2 ans, 3 ans comme ça. Donc là, j'étais pas encore conscient de ce que c'était que la drépanocytose, c'est tout ça. C'est quand j'ai commencé à prendre l'âge, je dirais vers mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, que mes parents m'ont expliqué ce que c'était la drépanocytose, que j'étais porteur d'un gène, les gènes SS, la forme SS de la maladie drépanocytose.
sommes arrivés à la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous étions en compagnie du docteur Prince Kazadi, neurologue à l'hôpital de Saint-Conteneur et à la clinique Malfaché à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a évoqué les causes et les facteurs de risque des AVC. Il a également énuméré les différents types de cette maladie et quelques signaux permettant de reconnaître un accident vasculaire cérébral qui s'annonce. Vous avez aussi suivi dans la deuxième partie de notre programme Carnet de santé qui vous a été présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph, à la présentation Nani Tetalabi. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.